Vint enfin le jour de mes 3 ans. C'était le premier anniversaire dont j'étais consciente. L'événement me sembla d'importance planétaire. Le matin, je m'éveillais en imaginant que Shukugawa serait en fête. Je sautais dans le lit de ma sœur encore endormie et la secouais. « Je veux que tu sois la première à me dire bon anniversaire !» Il me semblait qu'elle en serait très honorée. Elle maugréa « bon anniversaire » et se retourna d'un air mécontent. Je quittai cette ingrate et descendis à la cuisine. Nishio-san fut parfaite. Elle s'agenouilla devant l'enfant Dieu que j'étais et me félicita pour mon exploit. Elle avait raison. Avoir 3 ans, ce n'était pas à la portée de n'importe qui. Puis elle se prosterna devant moi. Je ressentis un contentement immense. Je lui demandai si les villageois allaient venir m'acclamer chez moi ou si c'était moi qui devais aller marcher dans la rue pour recevoir leurs applaudissements. Nishio-san eut un instant de perplexité avant de trouver cette réponse. « C'est l'été. Les gens sont partis en vacances. Sinon, ils auraient organisé un festival pour toi. » Je me dis que c'était mieux comme ça. Ces festivités m'auraient sans doute lassée. Rien de tel que l'intimité pour célébrer mon triomphe. Du moment que je recevais mon éléphant en pluche, la journée connaîtrait le sommet de son faste. Les parents m'annoncèrent que j'aurais mon cadeau lors du goûter. Hugo et André me dirent qu'exceptionnellement, ils s'abstiendraient de m'embêter pendant un jour. Kashima-san ne me dit rien. Je passai les heures qui suivirent dans une impatience hallucinée. Cet éléphant serait le présent le plus fabuleux que l'on m'aurait offert de ma vie. Je m'interrogeais sur la longueur de sa trompe et le poids qu'il aurait dans mes bras. J'appellerais cet éléphant « éléphant ». Ce serait un joli nom pour un éléphant. À 4 heures de l'après-midi, on m'appela. J'arrivai à la table du goûter avec des battements de cœur de 8 degrés sur l'échelle de Richter. Je ne vis aucun paquet. Il devait être caché. Formalité, gâteau, 3 bougies allumées que je soufflais pour expédier ça, chanson. « Où est mon cadeau ?» finis-je par demander. Les parents eurent un sourire futé. « C'est une surprise. » Inquiétude. « Ce n'est pas ce que j'ai demandé ?»« C'est mieux. » Mieux qu'un pachyderme en pluche, ça n'existait pas. Je présageais le pire. C'est quoi ? On me conduisit au petit étang de pierre du jardin. Regarde dans l'eau. 3 carpes vivantes s'y ébattaient. Nous avons remarqué que tu avais une passion pour les poissons et en particulier pour les carpes. Alors nous t'en offrons 3, une par année. C'est une bonne idée, n'est-ce pas ? Oui. Répondis-je avec une politesse consternée. La première est orange, la deuxième est verte, la troisième est argentée. Tu ne trouves pas que c'est ravissant ? Si, dis-je en pensant que c'était immonde. C'est toi qui t'occuperas d'elle. On t'a préparé un stock de galettes de riz soufflées. Tu les découpes en petits morceaux et tu les leur jettes, comme ça. Tu es contente ? Très. Enfer et damnation. J'aurais préféré ne rien recevoir. Ce n'était pas tant par courtoisie que j'avais menti. C'est parce qu'aucun langage connu n'aurait pu approcher la teneur de mon dépit, parce qu'aucune expression n'aurait pu arriver à la cheville de ma déception. Dans la liste infinie des questions humaines sans réponse, il faut insérer celle-ci. Que se passe-t-il dans la tête des parents bien intentionnés quand, non contents de se faire sur leurs enfants des idées ahurissantes, ils prennent à leur place des initiatives ? Il est d'usage de demander aux gens ce qu'ils voulaient devenir quand ils étaient petits. Dans mon cas, il est plus intéressant de poser cette question à mes parents. Leurs réponses successives donnent l'image exacte de ce que je n'ai jamais voulu devenir. Lorsque j'avais 3 ans, ils proclamèrent ma passion pour l'élevage des carpes. Quand j'eus 7 ans, ils annoncèrent ma décision solennelle d'entrer dans la carrière diplomatique. Mes 12 ans virent accroître leur conviction d'avoir pour rejeton un leader politique. Et lorsque j'eus 17 ans, ils déclarèrent que je serais l'avocate de la famille. Il m'arrivait de leur demander d'où leur venaient ces idées étranges. À quoi ils me répondaient toujours avec le même aplomb que ça se voyait et que c'était l'avis de tout le monde. Et quand je voulais savoir qui était tout le monde, ils disaient « Mais tout le monde, enfin !» Il ne fallait pas contrarier leur bonne foi. Revenons à mes 3 ans. Puisque mon père et ma mère avaient pour moi des ambitions dans la pisciculture, je m'appliquais, par bienveillance filiale, à mimer les signes extérieurs de l'ichtyophilie. Avec mes crayons de couleur, dans mes carnets à dessin, je me mis à créer des poissons par milliers, avec nageoires grandes, petites, multiples, absentes, écailles vertes, rouges, bleues à pois jaunes, oranges à rayures mauves. Oh, nous avons eu raison de lui offrir les carpes, disaient les parents ravis en regardant mes œuvres. Cette histoire eût été comique s'il n'y avait eu mon devoir quotidien de nourrir cette faune aquatique. J'allais dans la remise chercher quelques galettes de riz soufflé, puis, debout au bord de l'étang de pierre, j'effritais cet aliment aggloméré et jetais à l'eau des morceaux au calibre du pop-corn. C'était plutôt rigolo. Le problème, c'était ces sales bêtes de carpes qui venaient alors à la surface, gueules ouvertes, pour prendre leur casse-croûte. La vision de ces trois bouches sans corps qui émergeaient de l'étang pour bouffer me stupéfiait de dégoût. Mes parents, jamais à court d'une bonne idée, me dirent « Ton frère, ta sœur et toi, vous êtes trois, comme les carpes. Tu pourrais appeler l'orange André, la verte Juliette et l'argenté porterait ton nom. » Je trouvais un prétexte gentil pour éviter ce désastre onomastique. Non, Hugo serait triste. C'est vrai, nous pourrions acheter une quatrième carpe. Vite, inventer quelque chose, n'importe quoi. Non, je leur ai déjà donné des noms. Ah, et comment tu les as appelés? Qu'est-ce qui va par trois déjà? Me demandai-je à la vitesse de l'éclair. Je répondis « Jésus, Marie et Joseph. » « Jésus, Marie et Joseph. Tu ne penses pas que ce sont des drôles de noms pour des poissons ?»« Non, » affirmai-je. « Et qui est qui ?»« L'orange et Joseph, la verte et Marie, l'argenté et Jésus. » Ma mère finit par rire à l'idée d'une carpe qui s'appelait Joseph. Mon baptême fut accepté. Chaque jour, à midi, au moment où le soleil était au plus haut dans le ciel, je pris l'habitude de venir nourrir la Trinité. Prêtresse piscicole, je bénissais la galette de riz, la rompais et la lançais à la flotte en disant « Ceci est mon corps, livré pour vous. » Les sales gueules de Jésus, Marie et Joseph rappliquaient à l'instant. En un grand fracas d'eau fouetté à coups de nageoire, ils se jetaient sur leur pitance, ils se battaient pour avaler le plus possible de ces crottes de bouffe. Était-ce si bon que ça pour justifier de telles disputes? Je mordis dans cette espèce de frigolite. Ça n'avait aucun goût, autant manger de la pâte à papier. Pourtant, il fallait voir comme ces andouilles de poisson s'affrontaient pour cette manne qui, gonflée de liquide, devait être carrément infecte. Ces carpes m'inspiraient un mépris sans borne. Je m'efforçais, en dispersant le riz aggloméré, de regarder le moins possible les bouches de ce peuple. Celles des humains qui bouffent sont déjà un spectacle pénible, mais ce n'était rien à côté de celles de Jésus, Marie et Joseph. Une bouche d'égout eût été plus ragoûtante en comparaison. Le diamètre de leur orifice est presque égal au diamètre de leur corps, ce qui eût évoqué la section d'un tuyau s'il n'y avait eu leurs lèvres poissonneuses qui me regardaient de leur regard de lèvres. Ces lèvres saumâtres qui s'ouvraient et se refermaient avec un bruit obscène, ces bouches en forme de bouée qui bouffaient ma bouffe avant de me bouffer moi. Je m'accoutumais à faire cette tâche les yeux fermés. C'était une question de survie. Mes mains d'aveugle émiettaient la galette et jetaient devant elle au hasard. Une salve de plouf-plouf-gloup-gloup me signalait que la Trinité, semblable à une population affamée, avait suivi à la trace mes expériences de balistique alimentaire. Même ces bruits étaient ignobles, mais il m'eût été impossible de boucher mes oreilles. Ce fut mon premier dégoût. C'est étrange. Je me souviens, avant l'âge de 3 ans, d'avoir contemplé des grenouilles écrasées, d'avoir modelé de la poterie artisanale avec mes déjections, d'avoir détaillé le contenu du mouchoir de ma sœur enrhumée, d'avoir posé mon doigt sur un morceau de foie de veau cru, tout cela sans l'ombre d'une répulsion, animée par une noble curiosité scientifique. Alors pourquoi la bouche des carpes provoqua-t-elle en moi ce vertige horrifié, cette consternation des sens, ces sueurs froides, cette obsession morbide, ces spasmes du corps et de l'esprit? Mystère. Il m'arrive de penser que notre unique spécificité individuelle réside en ceci. Dis-moi ce qui te dégoûte et je te dirai qui tu es. Nos personnalités sont nulles, nos inclinations plus banales les unes que les autres. Seules nos répulsions parlent vraiment de nous. 10 ans plus tard, en apprenant le latin, je tombais sur cette phrase « carpe diem ». Avant que mon cerveau ait pu l'analyser, un vieil instinct en moi avait déjà traduit « une carpe par jour ». Adage dégueulasse s'il s'en fut, qui résumait mon calvaire d'antan. « Cueille le jour » était évidemment la bonne traduction. « Cueille le jour, tu parles. Comment veux-tu jouir des fruits du quotidien quand, avant midi, tu ne penses qu'au supplice qui t'attend et quand, après midi, tu ressasses ce que tu as vu ?» J'essayais de ne plus y penser. Hélas, il n'y a pas d'apprentissage plus difficile. Si nous étions capables de ne plus penser à nos problèmes, nous serions une race heureuse. Autant dire à Blandine, dans la fosse de son supplice, « Allons, ne pense pas au lion, voyons !» Comparaison fondée, j'avais de plus en plus l'impression que c'était ma propre chair qui nourrissait les carpes. Je maigrissais. Après le déjeuner des poissons, on m'appelait à table, je ne pouvais rien avaler. La nuit, dans mon lit, je peuplais l'obscurité de bouches béantes. Sous mon oreiller, je pleurais d'horreur. L'autosuggestion était si forte que les gros corps écailleux et flexibles me rejoignaient entre les draps, m'étreignaient, et leurs gueules lipues et froides me roulaient des pelles. J'étais l'impubère amante de fantasmes pisciformes. Jonas et la baleine, quel blagueur! Il était bien à l'abri dans le ventre cétacé. Si au moins j'avais pu servir de farce à la panse de la carpe, j'aurais été sauvée. Ce n'était pas son estomac qui me dégoûtait, mais sa bouche. Le mouvement de valvule de ses mandibules qui me violait les lèvres pendant des éternités nocturnes. À force de fréquenter des créatures dignes de Jérôme Bosch, mes insomnies naguère féeriques virèrent au martyr. Angoisse annexe. À trop subir les baisers poissonneux, n'allais-je pas changer d'espèce? N'allais-je pas devenir silure? Mes mains longeaient mon corps, guettant d'hallucinantes métamorphoses.